La série La Maison des Folles est en diffusion sur UNITV. Alors pourquoi en parlons-nous aujourd'hui, me direz-vous? Tout simplement parce qu'on en est à la deuxième saison. Et celles et ceux qui connaissent la série ont remarqué que les épisodes sont passés de 12 minutes à 24 minutes entre les deux saisons. Mais nous en parlons aussi parce que cette série, purement québécoise, a obtenu de multiples prix, parmi lesquels le prix du public de la meilleure série courte au Cannes Series, deux prix Gémeaux, meilleur drame, meilleur scénario, un prix Numix, meilleur drame, des prix à Melbourne Webfest, New York Webfest Award, Bilbao Series Land. Au-delà de ça, la série La Maison des Folles a été scénarisée et réalisée par une afrodescendante que j'ai rencontrée, Mara Jolie.
Moi, je me rappelle quand le gala Dynasty a été... Je pense que je peux raconter une histoire. Quand le gala Dynasty a été fondé, je me rappelle m'être dit « Ah, wow! La royauté, que c'est beau! » Et de m'être dit au fond de moi « Ah, je serai jamais là, mais dans mon cœur, je suis là. » Et j'ai reçu une nomination en 2020 pour réalisatrice de l'année. Et j'ai ressenti le devoir d'écrire « Je suis wet passing, est-ce que c'est correct? » Et on m'a répondu « Oui, on le sait, c'est correct. Aucun problème, ce sera l'occasion de parler de colorisme si ça fait réagir. » Et là, ça a été le début d'une grande réparation. Et quand il y a eu cette nomination et qu'il y avait les visages qui apparaissaient dans la salle, qui apparaissaient sur l'écran, il y a eu à la fois des gens qui applaudissaient et un froid, en fait. Tu sais, les gens étaient comme « Réalisateur de l'année! Wouh! » Et là, oups, d'un coup, on applaudissait moins. Puis en même temps, il y a des gens qui étaient comme qui sifflaient, qui tapaient du pied, qui applaudissaient, qui criaient « Joli! Joli! » C'était tout en même temps. Donc, je pense que c'est tout ça, tu sais, c'est tout à la fois. Puis, et ça m'a vraiment... ça a réparé quelque chose en moi. Ça m'a vraiment fait... c'est fou, hein, le besoin de reconnaissance, des fois, à quel point il y a des détails qui peuvent avoir un impact sur quelqu'un. Puis...
Qui est Mara Jolie?
C'est tellement une bonne question. Je dirais que Mara Jolie est une passeur sur cette terre. Une voyageure qui trace sa route. Et mon grand rêve, je dirais, que ce serait que sur mon lit de mort, en espérant que je sois sur un lit hein, quand même, je me dise que j'ai été l'héroïne de ma propre vie, que c'est moi qui ai vécu et que je suis fière d'avoir rempli cette vie-là. Alors, je dirais qu'essentiellement, Mara Jolie, c'est une personne comme ça.
Est-ce que ça vient de l'enfance? Quelqu'un qui est passé de Québec, Gabon, Sénégal, quel est celui que j'ai oublié là?
Afrique du Sud, France.
Afrique du Sud, France, Italie. Est-ce que ça vient de là?
Mais, je pense que oui, parce que j'ai grandi sur trois continents de 0 à 15 ans. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je changeais de pays et même de continent, surtout en tant qu'enfant, les réalités que les adultes nous disent, ceci est la vérité, tu dois te comporter de telle façon, toi, enfant, souvent un être inférieur et soumis. en fait, ce qui nous était demandé, c'était souvent parfois, c'était perçu comme la vérité, mais en réalité, tu changes de pays, puis ça change d'un pays à l'autre, ça change d'un continent à l'autre. La vérité est vraiment très subjective, ou la façon de faire est très subjective. Et j'ai quand même bougé dans des endroits où il y avait beaucoup de tensions sociales. Et j'ai remarqué qu'à l'intérieur de ces tensions sociales-là, des fois, les individus ne sont pas dans leur individualité, ne sont pas invités à s'accomplir ou à se réaliser pleinement, mais bien à répondre à un système. Et je pense qu'à l'intérieur de ça, moi, comme enfant, ça m'a perdue. Je me demandais qui j'étais. Je ne faisais que répondre aux règles d'un pays à l'autre pour fitter, pour blender, sans jamais vraiment blender. Et éventuellement, j'ai lu un livre qui s'appelle David Copperfield de Charles Dickens, et c'est le début de ce livre-là. Serais-je le héros de ma propre vie ou laisserais-je cette place à un autre? Et j'avais 11 ans, je pense, quand j'ai lu ça. Puis, étant donné que je ne savais pas trop j'étais qui, écartelée entre un million de milliards de cultures, ma mère est afro, foncée, moi je suis white passing, mon père blanc, je ne le connaissais pas, j'habitais un peu partout, j'étais à l'école, j'ai aussi fait du unschooling, donc ne pas aller à l'école finalement. Donc j'étais tellement un peu une espèce d'être bigarrée que je me demandais j'étais qui. Et si j'allais être capable de ne pas me soumettre, à un dogme ou simplement par souci de sentiment d'appartenance ou de... C'est ça, j'avais envie de trouver cette espèce d'équilibre entre le sentiment de sécurité et aussi de trouver mon individualité au travers de tout ça.
C'est ça, être héroïne de sa propre vie? Est-ce que tu l'es aujourd'hui? Qui tu voulais être?
Ah, quelle belle question! Ben, en fait... Wow! Oui! Évidemment, c'est un processus. Donc, il y a encore plein de trucs que je veux accomplir et que je veux faire. Et tu sais, si on me dit « Tu meurs demain, est-ce que j'ai réalisé 100% de tous mes rêves? » Non, pas encore. Mais si on me dit « Tu meurs ce soir, qu'est-ce que tu changes dans ta vie? » Je ne changerai rien. Tu sais, je ne changerai rien. Tu sais, je ferais peut-être un souper avec des amis, la famille, là, pour faire « Hey, merci beaucoup, je vous aime. Je m'en vais me coucher. » mais je suis tellement choyée d'avoir été capable de créer la personne que je suis, d'avoir été capable de savoir qui je suis dans mon essence et ensuite de créer les bouts manquants, les bouts que j'avais envie d'être. Puis il y a beaucoup de choses, c'est ça, que j'ai encore envie de connaître, mais vraiment, là, je trouve que je peux pas être une meilleure version. Avec les outils que j'avais, dans tous les défis que j'avais, je suis vraiment la meilleure version. Puis c'est très... Des fois, quand je pense à ça, je me sens émue de cet enfant que j'ai été, de cette adolescente que j'ai été, qui était quand même dans des milieux difficiles et dysfonctionnels. Puis j'étais en famille d'accueil aussi, enfin bref. Mais... et de me dire que je suis, je crois, une preuve que l'amour est plus fort que tout. Tu sais, au-delà de tout le bon et le mauvais de ce qui a été vécu et traversé et vu et entendu et subi, je suis encore une personne pleine d'idéalisme, d'espoir, de confiance envers les humains puis envers les possibilités qu'on a. Puis j'ai le privilège de travailler comme artiste et de prôner cette parole-là et de réussir à payer mon loyer, ma vie avec cette vision-là, tu sais, puis de rejoindre des gens dans cette vision. Donc, c'est très... c'est formidable, en fait.
Mara elle-même le dit, entre de multiples passages dans des maisons d'accueil, diverses violences subies, comment s'en sort-on?
Je pense que c'est une forme de magie. Je ne sais pas s'il est... qui croient, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient à la magie, mais ça va être un peu drôle de dire ça, mais vraiment les ancêtres. Quand j'étais enfant, là, tu sais, j'étais, je sais pas, 3-4 ans, là, je me sentais déjà portée par mes ancêtres. Tu sais, j'ai toujours senti mes ancêtres. Et dans des moments où j'avais des questionnements et des doutes, je leur posais des questions et dans la vie, la réponse m'apparaissait, tu sais.
Pour chercher à comprendre qui est Mara Jolie, on se pose la question de savoir pourquoi l'écriture.
J'ai commencé à lire, poum, plein, à dévorer des livres. Et ce qui était très rassurant de dévorer des livres, je vais répondre à ta question, j'arrive, mais ce qui était très rassurant de dévorer des livres, c'est que les livres, c'est comme des amis que tu te fais et qui te suivent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, peu importe. Et c'est aussi une activité qui se fait en silence. C'est pas comme si j'aimais jouer de la guitare électrique, là, avec... il faut de l'électricité, déjà. Non, mais... des fois, c'est pas toujours accessible.
Non.
Non, mais c'est ça. Puis ça fait du bruit, puis bon. Alors qu'un bon livre, surtout à l'époque, là, je pouvais acheter ça pour 10 francs ou des fois 2 francs en spécial. C'était vraiment rien, là. Et c'est silencieux et tu tombes dans un monde. Et en ayant vu ma mère écrire énormément, elle voulait que j'écrive. Ça m'a intriguée. Donc, j'ai commencé, je pense, j'ai écrit ma première pièce de théâtre, j'avais 9 ans. Puis, j'ai écrit un recueil de poésie, j'avais genre 13 ans. C'est très emo, là, emotional. Et donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis, à chaque fois qu'on avait des travaux artistiques à écrire à l'école, je sais pas pourquoi mes profs étaient toujours comme un peu, oh mon Dieu, mais un peu, je pense, source, comme tu nommais, la réflexion que je portais à moins de 20 ans était quand même assez lourde de crise existentielle et de réflexion sociale. Bon. Et ça a toujours fait partie de moi, mais je voulais pas nécessairement nourrir ça parce que je trouvais ça un peu trop angoissant et trop solitaire. Je sais pas, j'aimais mieux jouer. Puis à un moment donné, ça s'est vraiment imposé à moi parce que j'ai commencé à écrire pour le plaisir. Et c'est vraiment en sortant de l'école de théâtre, j'écrivais un peu toujours sur le côté, puis on me disait « Ah, tu devrais continuer. » Puis j'étais un peu en résistance. Et éventuellement, je suis rentrée. Éventuellement, il fallait que je tourne des scènes de démo. Et c'est là qu'on arrive. Il fallait que je tourne des scènes de démo de jeux d'actrice quand tu sors de l'école de théâtre après 4 ans. Il te faut du matériel vidéo pour montrer tes talents. Et j'ai commencé à écrire des scènes pour que je puisse jouer, en fait. Et ensuite, je ne sais pas, je suis arrivée à Kino, qui est un regroupement de créateurs un peu anarchiques, vraiment plaisant. Et là, j'étais comédienne là-bas. Puis on me disait « Ah, mais... il me semble que tu serais une bonne réalisatrice, tu fais des bonnes suggestions dans tes rôles. » J'étais comme « Ouais, mais je fais juste des suggestions pour mon rôle, tu sais, ça n'a pas rapport avec la mise en scène au complet, là. » Puis t'es comme « Non, mais tu devrais essayer. » Finalement, à force d'insister, je me suis inscrite pour réaliser un truc. J'ai été acceptée, mais je ne connaissais pas de scénariste. J'ai fait « Oh non, j'ai pas de scénariste! » Fait que finalement, j'ai écrit un scénario et j'ai adoré réaliser. Et pour réaliser, j'écrivais des scénarios, puis éventuellement, ça allait débouler comme ça. Et je me suis rendu compte un peu sur le tard, je me suis rendu compte vraiment comme, je dirais, il y a 3 mois que j'ai vraiment un talent particulier en écriture. Et pourtant, j'ai gagné des Gémeaux pour meilleure écriture, meilleur scénario. J'ai gagné plein de prix avec des projets que j'ai faits à l'international aussi. Tu sais, comme, il y avait vraiment une reconnaissance, des autres de ça. Mais on dirait que dans ma tête, je me disais, ah, oh, c'est peut-être un coup de chance. Ou, ah, là, ça a bien fonctionné, mais peut-être que ça ne durera pas. Mais là, à force que ça fait plusieurs fois que j'écris bien là, et que je réalise bien aussi, là, je commence à... Je honne plus ce don-là.
Ce don-là dont tu parles a accouché de la série La Maison des Folles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors, La Maison des Folles, c'est l'histoire d'une jeune fille métisse qui arrive du Gabon. Qui débarque dans une famille d'accueil en banlieue de Montréal et qui doit faire face à sa nouvelle réalité, en fait. Donc, ça, c'est la prémisse. Et puis, en fait, au travers de cette aventure-là, on découvre une fable humaniste avec des personnages très colorés, très contrastés, très extrêmes. On comprend pourquoi ça s'appelle La Maison des Folles.
Mais très humaine.
Très humaine, exactement. Et on découvre en fait que tout le monde est le maître et l'élève l'un de l'autre, en fait, dans cette série-là.
Derrière, j'ai vu quelques épisodes, notamment de la saison 2. Derrière cette espèce, allez, je vais utiliser un beau terme, derrière cette excentricité de certains... des personnages, notamment toutes les jeunes filles qui sont dans la maison d'accueil, à la fin, mais en fait, on découvre, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus, on découvre beaucoup d'humanité en chacune d'elles, beaucoup d'intelligence, finalement, l'intelligence de la vie en chacune d'elles. Et peut-être que là, je commence à comprendre pourquoi cette série a tant plu, notamment, et a obtenu cette récompense à Cannes Série.
Mais je pense, en fait, que ça revient un peu à ce qu'on parlait sur l'authenticité. C'est, je trouve qu'on est dans...
Que tu as découvert il y a quelques jours.
Oui, grâce à mon ami Benoît. Allô! Voilà. Mais, tu sais, je pense qu'on est en manque de contact humain en ce moment. T'sais, on n'a jamais été autant en relation les uns aux autres avec les réseaux sociaux et tout ça, mais en même temps, on est en manque. On est en manque de contact. On est en manque de que nos âmes... Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas voir l'âme. Là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais comme nos âmes qui existent, là, qui sont à l'intérieur de notre sac à peau, là, cette chose, cette étincelle d'énergie qui nous anime... a envie de connecter à l'autre. On est des animaux grégaires. Et tout contact qui te donne le goût d'être en connexion à l'autre, je pense que ça fait du bien. Il y a quelque chose de très... comme un massage personnel, je trouve, de regarder La Maison des Folles parce que on apprend à regarder la vie à travers ces personnages-là et on découvre des réalités que nous, on ne connaîtrait pas nécessairement, peu importe de quel point de vue se situe le personnage. Et même, je trouve que ça fait des ponts. T'sais, je connais un mec qui me dit, un mec afro qui me dit « Ma tante, on ne veut pas l'aimer parce qu'elle est raciste, mais je l'aime. » Je comprends qu'elle est raciste parce qu'elle est ignorante, en fait, et je l'aime. Elle fait de son mieux avec les outils qu'elle a et elle n'a pas beaucoup d'outils et je l'aime. Et ça, c'est comme une grande victoire pour moi, t'sais. Tout comme de réussir à faire comprendre à des personnes blanches qui ont regardé la série et qui m'ont dit « Ah ouais, les moments où est-ce qu'il y avait des commentaires de la part de personnes blanches sur le personnage principal, notamment, ça m'a fait mal. » Et là, tu es comme « Yes! » Parce que toi, toi en tant qu'individu, c'est normal que tu ne vives pas toutes les réalités. Mais si on peut témoigner de quelque chose et que tu connectes, peu importe c'est quoi ton point de départ, peu importe notre point de départ, on arrive au même endroit. Et c'est ça que je trouve puissant avec le fait de raconter une histoire. Ce n'est pas pour rien qu'on raconte des histoires aux enfants. C'est pas pour rien qu'on se raconte des histoires en tant qu'adulte, l'espèce de culture du marabout, l'espèce de culture de genre on est ensemble et on communie autour d'un sujet. La Bible, la plus grande histoire. Non, mais tu sais, le plus grand conte, le plus grand mythe. Donc, tu sais, il y a quelque chose où je trouve que c'est possible de faire ça aussi en télé, en cinéma et en web. C'est possible de faire ça et je trouve que ça a été un grand défi et je trouve que c'est... Personnellement, à mon goût, à moi, je trouve que c'est réussi dans cette série-là et c'est une grande fierté. Est-ce que je vais être capable de faire ça à chaque fois? Je ne sais pas, mais on a parlé d'authenticité. Dans tous les cas, on vivra des choses sincères, mais oui. Et donc, ça crée des ponts, en fait. Ça relie les humains.
Alors, j'ai dit que cette série, elle était sur le web, puis voilà, maintenant, elle est sur TV5 Uni, la deuxième saison. Qu'est-ce que Uni TV, là, qu'est-ce qu'ils te disent pour te dire non, on va passer du 12 minutes aux 20 ou 24 minutes, je ne sais plus exactement, et nous, on veut ça à la télé. Qu'est-ce qui les a séduits? C'est quoi leurs arguments?
En fait, c'est moi qui les ai approchés pour faire ça. Donc, j'ai pitché. Et au début, je pense qu'ils voulaient plus garder le même format. Et moi, j'ai dit que je ne referais pas, je ferais pas de saison 2 si ce n'était pas des demi-heures. Et ils ont tellement aimé la saison 1 qu'il y avait eu un super beau rayonnement. Puis je pense qu'ils étaient attachés aussi au personnage, à l'histoire. On avait une belle relation. Puis mon pitch, je pense que l'histoire du pitch était vraiment intéressante. Et surtout, c'est que tout le monde qui avait vu la série disait « on en prendrait plus, on en prendrait plus, on en prendrait plus ». Puis j'étais comme « mais la seule façon d'en donner plus, c'est pas nécessairement de faire une deuxième saison avec des 12 minutes, c'est de faire une deuxième saison en demi-heure ». Et finalement, ils ont réfléchi à leur truc, ils se sont laissés tenter. Et pour ça, je salue vraiment beaucoup leur audace parce que c'est vrai que ça ne s'était jamais fait. Mais Uni, je trouve qu'ils ont vraiment cette capacité-là de laisser beaucoup de place à la parole des créateurs. Puis c'est très, et des créatrices. Et c'est très satisfaisant.
Je passe à travers ce que tu as fait. Je vois ton travail. Depuis qu'on parle, tu as beaucoup utilisé le mot humain. Les personnes que j'ai rencontrées. Et si quelqu'un me demande, mais alors... Tu as vu le travail de Mara Jolie, son univers, c'est quoi? Je vais lui dire, c'est la complexité de l'être humain, mais dans ses côtés, pas nécessairement sombres, mais ce que peut-être elle appelle les failles, les tabous. Et je vais le dire de manière, je vais prendre la version facile. Est-ce que dans ce talent d'écriture que tu as et où tu parles des humains, pour toi, c'est de choquer un peu.
C'est vraiment une bonne question. Pas du tout. C'est ça qui est fou. Jamais, jamais quand je travaille, je me dis qu'est-ce qui va choquer. Le fait de choquer est un résultat qui est complètement à l'extérieur de ma démarche. Mon intention... Quand je m'assois, c'est pas ça du tout. Mon intention, c'est toujours d'aller dans l'intimité. Ce que je me rends compte, c'est que dans l'intimité, il y a beaucoup de tabous. Mais c'est une conséquence qui est complètement hors de mon... Tu sais, si en ce moment, j'écris un truc, puis mettons, il y a de l'inceste, OK? Il y a un climat un peu incestuel. Moi, ayant été en famille d'accueil, je veux dire, j'en ai. C'est une banalité, les climats incestueux dans les familles, mais d'une banalité, je veux dire. J'en connais plein, et même en dehors des familles d'accueil. En fait, c'est d'être dans le déni. Ah, c'est peut-être ça ma démarche, sortir du déni. Pour moi, je suis toujours en quête de créer des dynamiques de pardon. Je veux que les êtres humains apprennent à s'aimer. Et pour ça, il faut apprendre, faut faire mieux ou différemment des fois. Et donc, dans des climats de pardon, il faut qu'il y ait une rédemption, tu sais. Je me suis rendu compte par après que j'étais effectivement dans des propos chocs, mais je me suis jamais dit, alors qu'est-ce qui m'a choquée? Tu sais, moi, je vais pas brûler de l'argent à la télé là, juste pour faire mon rebelle, tu sais, ou je te donne un exemple, mais tu sais, je vais pas aller faire des trucs qui torturent, je vais pas torturer mes actrices pour qu'elles aient mal et que ce soit vrai. Je suis pas sadique et je suis pas non plus une bobo bourgeoise qui se la joue provoque. Tu sais, je trouve que je vais dans des zones douloureuses, mais toujours pour qu'on se sorte de cette zone-là. Donc,
Mara, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas vécu un certain nombre de choses que toi, tu as vécues, est-ce que tu penses que cette personne est capable, et là je parle dans le cinéma, de dire, d'écrire, de présenter ce genre de thème avec autant de facilité et d'aisance que toi?
Ben, c'est sûr que tu sais, il y a des gens qui disent qu'on peut juste parler de ce qu'on connaît. Puis si on parle de ce qu'on ne connaît pas, il faut tellement étudier le sujet et faire de recherches qu'on finit par le connaître, en fait. Je pense que c'est ça la capacité de l'empathie, c'est même si moi, personnellement, je n'ai pas vécu une situation, si je suis capable de me plonger dans cette situation-là en allant sur le terrain et en étant là. Tu sais, exemple, Maïwenn, la réalisatrice Maïwenn, quand elle a fait le film « Police », elle ne connaissait pas du tout la brigade des mineurs en France, mais elle est allée faire de l'observation pendant 6 mois. Donc, puis elle a beaucoup lu, puis donc elle s'est immergée, donc elle a fini par connaître son sujet. Donc, qu'on le connaisse à la base ou qu'on finisse par l'apprendre, le découvrir, il faut connaître son sujet. Donc, je pense que c'est ça la clé, tu sais. Je pense qu'il y a quand même certains points de vue qui sont si particuliers qu'à l'époque d'aujourd'hui, ils ne peuvent être portés que par des personnes qui le connaissent. Tu sais, c'est parce qu'on a tellement été dans une perspective de male gaze, eurocentrique, d'homme blanc, cis. On a tellement été élevés dans cette unique vision des choses que notre propre expérience personnelle de la vie est parfois même teintée de tout ce contenu qu'on nous a gavé depuis qu'on est enfant, tu sais. C'est ça, on n'a tellement pas été dans une pluralité de vision que pour commencer à créer cette pluralité de vision-là, je pense que c'est beaucoup plus facile et authentique que ce soit des personnes qui connaissent leur sujet et qui le représentent, qui portent leur parole. Et aussi comme ça, ça évite que... là, je tombe dans un discours un peu politique, mais ce serait trop facile que des personnes privilégiées colonisent la vision des autres en voulant porter un narratif différent. Donc, si je peux être un peu plus explicite, si un homme blanc hétéro cis dit « Ah, mais moi, je suis capable de faire un film sur les trans, sur les femmes trans, il n'y a aucun problème. » Sur les femmes trans racisées, mettons, soyons encore plus... il n'y a aucun problème. Je pense que, idéologiquement parlant, ce serait possible, mais qu'aujourd'hui, c'est très malvenu et pas... Et je n'encouragerais pas ça parce qu'il y a toujours des nuances. Quelqu'un qui a été forgé dans cette réalité-là est tellement plus, a tellement à nous apprendre et ces gens n'ont pas besoin de porte-voix. Tu sais, comme, on n'a pas, faut juste leur donner le micro. Faut arrêter de dire je suis le porte-voix de. Non, donne le micro, bye. Donc, et éventuellement, quand il y aura eu. Tu sais, quand il y aurait eu 150 ans d'histoire de cinéma, de télévision, de radio, de, je sais pas, de livres, à travers cette pluralité, ces diversités de regards et d'expériences de la vie, oui, peut-être on pourra s'échanger les trucs, mais en ce moment, non, pas du tout, c'est trop dangereux, tu sais.
«
Je suis toujours en compagnie de Mara Joly, la scénariste et réalisatrice de la série La Maison des Folles. Et vous écoutez SIEC, le podcast.
Jusqu'à quel point tu penses que le privilège white passing t'a aidé à que tu évolues dans cette industrie qui est encore un peu fermée?
100%.
OK.
100%. Et je trouve ça horrible de dire que je suis la première femme afro à écrire et réaliser une série au Québec, tu sais, de fiction. Je trouve ça série, tu sais, de format 30 minutes. Je trouve ça horrible, tu sais. Mais oui, 100%. Après, est-ce que je pense que c'est en train de changer? Complètement. Je pense que c'est complètement en train de changer en ce moment. Moi, je connais beaucoup de gens qui arrivent. C'est juste que ils sont en train de développer leur expertise en ce moment. Tu sais, qu'est-ce qui fait que moi, je l'ai déjà? C'est mon privilège. En ce moment, on dirait que les gates sont en train de s'ouvrir. Et là, les gens sont en train de faire leurs armes, si on veut. Mais on arrive, là. Dans l'année prochaine, 2-3 ans, là, it's good, là. On est là, tu sais. Donc, moi, le fait que j'ai un peu cette longueur d'avance-là, définitivement, c'est dû à mon privilège.
À l'inverse, jusqu'à quel point ça a été plutôt un handicap vis-à-vis de la communauté afro, ton privilège white passing? Jusqu'à quel point tu as souffert, oui, parce que je pense que c'est le mot, de justement ce privilège de l'autre côté, mais dans ce cas, qu'est-ce que c'était?
Ça me touche beaucoup ta question. Je me sens vue dans ta question, donc je te remercie de la poser. On ne m'a jamais posé cette question-là, en fait. Beaucoup souffert, énormément souffert. Et en même temps, j'ai beaucoup de soutien, de support aussi. Donc, l'un existe avec l'autre. Et je comprends. Je comprends pourquoi ça peut faire réagir mon existence, ma présence. Je trouve qu'à l'intérieur des communautés, il y a beaucoup de racisme internalisé, beaucoup de violence internalisée, beaucoup de traumatisme transgénérationnel, beaucoup de problèmes de santé mentale, santé financière, beaucoup de violence financière, violence familiale, sexuelle. Tu sais, il y en a, là. En plus, on est dans des communautés où on favorise pas beaucoup d'aller chez le psy. Mais de toute façon, si on va chez le psy, qui sera notre psy? Une personne blanche, pleine de privilèges, qui nous regarde avec ses propres biens conscients, tu sais, à un moment donné, comment on s'en sort? Donc, je comprends le... Puis c'est très différent d'être d'origine africaine, d'Afrique, non, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, c'est très différent de venir des îles. Bref, français, anglais, francophone, anglophone, il y a plein de... Donc, j'ai appris que ce qu'on projette sur moi, c'est un peu des tensions intérieures de la personne devant moi. Ça, il a fallu que je le comprenne assez vite parce qu'à un moment donné, c'est troublant, tu sais, d'être accepté, aimé, choyé et d'un autre côté, aléatoirement selon la personne qui est devant nous, d'être rejeté, d'être méprisé, jalousé, dégradé, etc. Puis des fois, à l'intérieur même d'une personne, qui au début est rébarbative, ensuite tu crois qu'elle t'a accepté et éventuellement, il y a quelque chose, inconsciemment, ça lui glisse. Tout d'un coup, tu es redevenu cette personne blanche. T'es. Donc c'est très, c'est la condition des métis. C'est la condition des métis. Ça, c'est un grand sujet, le métissage, mais c'était quoi la question déjà? Est-ce que j'ai souffert? Oui. Oui, j'ai souffert. Et en même temps, moi, je me rappelle quand le gala Dynasty a été... je pense que je peux raconter une histoire. Oui, quand le gala Dynasty a été fondé, je me rappelle, m'a dit, ah, wow, la royauté, que c'est beau. Et de m'être dit au fond de moi, ah, je ne serai jamais là, mais dans mon cœur, je suis là. Et j'ai reçu une nomination en 2020 pour... réalisatrice de l'année. Et j'ai ressenti le devoir d'écrire « Je suis white passing, est-ce que c'est correct? » Et on m'a répondu « Oui, on le sait, c'est correct. Aucun problème. Ce sera l'occasion de parler de colorisme si ça fait réagir. » Et là, ça a été le début d'une grande réparation. Et quand il y a eu cette nomination et qu'il y avait les visages qui apparaissaient dans la salle, qui apparaissaient sur l'écran, il y a eu à la fois des gens qui applaudissaient et un froid, en fait. Puis les gens étaient comme, représentant de l'année, wouh! Et là, oups, d'un coup, on applaudissait moins. Puis en même temps, il y a des gens qui étaient comme, qui sifflaient, qui tapaient du pied, qui applaudissaient, qui criaient, joli, joli! C'était tout en même temps. Donc, je pense que c'est tout ça, tu sais, c'est tout à la fois. Puis, et ça m'a vraiment, ça a réparé quelque chose en moi. Ça m'a vraiment fait, c'est fou, hein, le besoin de reconnaissance, des fois, à quel point il y a des détails qui peuvent avoir un impact sur quelqu'un. Puis, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais en Afrique du Sud, c'était vraiment de 8 ans, c'était en l'an 2000, 8 ans après, à peu près après l'apartheid, c'était 9 ans, enfin bref, c'était vraiment horrible. Et ma mère était méprisée, tout ça. Bref, il y a une anecdote, on va à la banque. Moi, j'ai 14 ans, je ne parle pas du tout anglais, j'apprends l'anglais en Afrique du Sud. Ça fait 3 semaines, 2 semaines qu'on est là, bref, on a manqué notre avion. Et on reste une semaine de plus, on va à la banque. Moi, bon, c'est ça, white passing, ma mère foncée. Et là, la dame à la banque refuse de servir, qui est une blanche, hein, refuse de servir ma mère. Donc, mais en même temps, elle est obligée parce qu'il faut qu'elle fasse son travail. Et donc, je pense qu'elle n'avait jamais vu une femme afro avec autant d'argent dans son compte de banque, là, parce qu'il y avait clairement un enjeu par rapport à quelque chose. Au début, c'était correct, puis d'un coup, elle s'est fermée. Et donc, elle me parlait à moi. Et c'est ma mère qui lui parlait à elle, mais elle me regardait moi, la dame. Et là, moi, je suis comme, mais madame, en anglais, là, je dis, madame, c'est parce que c'est pas mon compte de banque, là, c'est le compte à ma mère. Et là, encore une fois, de voir ce regard du blanc qui est déçu et trahi de voir que la personne blanche devant lui est en fait une personne afro. La trahison de la goutte de sang, là, tu sais. Et dans toute cette déconstruction-là, et ensuite cette montée de haine dans le regard de faire, je suis l'incarnation vivante que tout le colorisme, c'est de la foutaise parce que je suis afro, tu t'identifies à moi, tu penses qu'on est dans le même code, et finalement, je suis pas dans ton code à toi. Donc la personne blanche se sent trahie et en danger et me déteste dans son regard. C'est arrivé souvent. Et mais finalement, elle n'a pas le choix de me parler parce que je suis le moins pire des deux, selon elle. Donc, il y a encore ce système où je regarde ma mère en faisant « Mais que se passe-t-il » et ma mère lui parle et elle lui répond en me regardant. Et là, je suis horrifiée. Et il y avait plein de systèmes comme ça. C'était encore tous les postes. Ça coûtait 30 $ à l'époque, clairer son casier judiciaire, qu'on était une personne blanche et qu'on avait tiré quelqu'un ou tué quelqu'un de black. Ça coûtait... Il fallait donner juste 30 $ à un policier pour qu'il enregistre pas trop les trucs. Tu sais, ça coûtait, en fait, la vie d'une personne afro coûtait 30 $. C'est tellement traumatisant. Puis toutes les espèces de ségrégation, toutes les personnes qui vivaient dans la misère des gens français, toutes les personnes qui sont au-dessus en train de leur dire quoi faire et de les. En tout cas, bref, c'était vraiment horrible. Et moi, à un moment donné, j'en suis venue à détester. Ma peau, j'ai développé une espèce de haine, une haine de représenter ça dans le regard des autres, tout en étant incapable de changer le regard des autres sur moi. Donc, mon apparence signifiait quelque chose pour les autres qui me dépassaient complètement. Et c'était à la fois, moi je m'identifie à ma mère parce que c'est elle qui m'élève, puis c'est tout. Mais en même temps, l'oppresseur me regarde et fait, bah c'est toi quoi. Bienvenue chez nous. T'sais. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai beaucoup prié, puis à un moment donné, j'ai trouvé ma réponse, t'sais, de comment moi à 14 ans je pouvais me construire comme futur adulte dans ce monde-là et me pardonner d'être pâle. T'sais, c'était vraiment ça. Et je m'étais dit, ben je sais pas, j'ai eu une inspiration, puis je me suis dit, je serai le cheval de Troie. Je serai le cheval de Troie. Et c'est en ayant ce mythe fédérateur-là dans la tête que j'ai avancé toute ma vie en me disant, je suis le cheval de Troie. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en ce moment, je travaille sur une grosse série et 70% à peu près de mon casting est afro. S'il est accepté tel que je le veux. Mais il est écrit comme ça, puis à date, le diffuseur, il est correct. On est en... Bref. Et ça, c'était mon rêve. On arrive, c'est ça. La maison des fois, c'était la préparation à ça. Je testais les limites, je testais les codes, puis là, boum, je le fais, tu sais. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que je suis, j'ai l'impression, à une étape où je n'ai plus vraiment besoin d'être le cheval de Troie. Pas au Québec, en tout cas.
Mara Jolie, scénariste et réalisatrice de la série « La Maison des Folles », diffusée sur UNITV.
Mara, merci beaucoup.
Merci,
bye.
Bye.
Mon nom est Cyril Ekwala.